si vous avez une question, si vous avez une réflexion, si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est le moment. Je vais demander à Maurice Blanc de venir nous rejoindre. Et évidemment, vous avez vos micros ici. Et nos invités aussi peuvent répondre à vos questions, à toutes les questions et demandes de précision. Première question.
Alors moi, j'ai... Oui.
Oui, allez-y.
Alors moi, je n'ai pas de questions, ni de remarques, ni d'interrogations à ce stade du débat. J'ai juste une citation à rajouter à celle qu'on a entendue depuis le début de la réunion. C'est une citation de Henri Queuil. Henri Queuil, c'est un homme politique de la 4e République, qui était président du Conseil, je crois, et qui disait que la politique ne consiste pas à régler les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent.
Une réflexion, Monsieur Blanc ? Allez-y, faites-vous plaisir. Non ? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une... est-ce que vous êtes... D'ailleurs, vous avez vos papiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces citations ? Prenez votre papier, on va voter, ça va être notre premier vote. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord, c'est le papier vert. Si vous êtes contre, vous pensez que c'est pas vrai, c'est le papier rouge. Vous pouvez même voter, hein, même si vous êtes élu. Si, si, il y a quelques voix d'opposition. D'accord, très bien. Fort bien. Merci beaucoup de ce premier vote participatif. Alors, une autre réflexion ?
Ce n'est pas une réflexion, c'est un témoignage. Et aussi, enfin bon, il y a aussi une réflexion. Je trouve que la démocratie locale est en panne. Bon, dans toutes les villes, hein, beaucoup de villes de France, pas toutes quand même. À Strasbourg, c'est quand même vraiment remarquable. Moi, je pense que c'est aussi de notre faute. Puisqu'en tant que citoyen, on a énormément de pouvoir, il faut le savoir. Même si on n'a pas la sensation qu'on en a, on en a quand même beaucoup. Et on s'est laissé endormir par cet État qui est omniprésent, qui est toujours là pour nous assister, pour être à notre place. Et on a beaucoup de mal actuellement à mobiliser. Alors peut-être que ce sont des thématiques bien précises. J'ai l'impression qu'à la Roberzo, moi je suis de Strasbourg-Centre, et on a du mal à mobiliser Strasbourg-Centre. Parce que les riverains quittent beaucoup Strasbourg-Centre pour plusieurs raisons.
Vous faites partie d'une association, juste pour nous éclairer ?
Je fais partie d'un collectif que j'ai créé à la Cruteneau, les D'accord. riverains de la Cruteneau.
Okay.
Et on a beaucoup de mal à mobiliser, bon, pour des raisons d'habitants, d'habitat, enfin bon, bref. Et j'ai l'impression qu'à la Roberzo, ça bouge beaucoup, c'est très bien. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième témoignage, j'ai été invitée à participer à la réunion sur les quais. Et effectivement, ça a été pour moi une démocratie locale complètement bafouée. J'ai jamais vu ça. Je ne vais pas tout raconter, hein, parce que beaucoup de témoignages viennent se croiser avec le mien. Mais on n'a pas de démocratie locale à Strasbourg. Voilà. Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Moi, je viens d'une autre ville qui est Mulhouse, qui est une ville donc, du sud de l'Alsace. On avait une démocratie locale qui était beaucoup plus ancrée. Et je pense qu'il faut vraiment se battre pour la réactiver.
Voilà. Une proposition éventuellement pour la réveiller, la réactiver ?
La réveiller, la réactiver, bon, il faut que les gens se bougent, il faut que les gens aient confiance en eux et dans leur action citoyenne. Je pense qu'avec tout ce qui se passe en politique actuellement, il y a quand même une grosse crise morale. On le voit avec les élus qui ne pensent qu'à une chose, c'est se faire du fric, il faut le savoir. Hein. Bon, l'argent, on en a besoin aussi, il ne faut pas être non plus naïf, on a besoin d'argent. Mais on a aussi besoin de préserver ben, nos maisons à la Roberzo, les domaines. C'est une très belle ville. Et moi, j'ai la sensation, je ne suis pas du coin, ça fait 2 ans que je suis ici, 3 ans, qu'on est en train de détruire des sites magnifiques à Strasbourg. Et j'ai l'impression qu'on est impuissant. On se dit, mais comment on va faire pour pouvoir faire, agir, etc. Bon,
alors,
c'est compliqué quand on a... Voilà. Alors,
éventuellement, une petite proposition.
Une petite proposition, peut-être. Je suis en train de réfléchir à me dire... Est-ce que dans ces projets qu'on a publics, est-ce que les élus sont vraiment indispensables ? Est-ce qu'on est obligé de les inviter dans ces conseils de quartier où il y a toujours un élu qui est là ? Il y a toujours des groupes de pression, il y a toujours des lobbies. Hein ? Moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de les avoir avec nous. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Il y a des élus qui sont très bien, il faut quand même le dire. Il y a des gens qui s'investissent et qui sont vraiment
donc,
très
si
bien.
Si je comprends bien votre proposition, je la résume vite, c'est que vous pensez que dans certains éléments, parce que le conseil de quartier, il n'y a pas d'élus, hein, logiquement. Je le corrige tout de suite, mais dans les démarches de démonstration, voilà. Vous pensez que les concertations doivent se passer d'élus ?
Je pense qu'on peut se passer d'élus, mais le souci, c'est qu'à la mairie de Strasbourg, juste pour encore témoigner, les personnes qui y travaillent, les techniciens, sont complètement soumis à la volonté politique des élus et ont une petite, toute petite marge de manœuvre. Donc on l'a bien compris sur, la négociation des quais.
Merci pour votre témoignage. Donc la proposition, c'est faire sortir les élus de la concertation, des processus de concertation. Est-ce que cette proposition, à chaud, vous séduit, vous séduit pas ? On peut voter. Ça, c'est non. Le rose, c'est non. Le vert, c'est oui. C'est plutôt non. Mais il y a des oui. je voulais, juste avant qu'on passe, on a eu un deuxième témoignage internet par M. Benoît Jacquemin, donc ce n'était pas la majorité silencieuse, je crois qu'il est dans la salle, mais je vais le lire. Il pose trois questions. Quel est l'espace qui peut être réservé à la décision politique ? En premier lieu, ne s'agit-il pas d'une question de méthode ou de démarche ? Quelles pourraient être les bonnes pratiques en quelques exemples ? C'est peut-être pour vous cette question, les bonnes pratiques ?
Bon, d'abord la question espace qui peut être réservé à la décision politique, c'est très difficile à répondre parce que qu'est-ce qu'on entend par décision politique ? S'il s'agit des grandes décisions, il y a peut-être des espaces spécifiques, mais la décision politique, il y en a aussi à des niveaux très, très fins, très micro, et donc c'est tout l'espace qui est concerné. Et dire qu'il y a un espace spécifiquement pour la décision politique me gêne. Question de méthode, oui, de méthode et de démarche, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que qu'au bout du compte, les élus prennent leurs responsabilités ne me choque pas s'il y a eu préalablement tout un travail d'écoute et, quelqu'un l'a dit tout à l'heure et c'est très juste, de transparence. Et ça, c'est essentiel. Et donc, c'est pour moi, c'est bien une question de démarche et une question de méthode qui est en jeu. Et puis, les bonnes pratiques. Je me méfie des bonnes pratiques. Parce qu'il y a tout ce discours, il faut, et c'est un peu l'injonction que l'on fait à la sociologie et aux sciences sociales, dites-nous quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut généraliser. Mais une bonne pratique, elle est adaptée à un contexte. Et dire on la prend et puis on la met dans un autre contexte, elle ne sera plus bonne et ça ne marchera pas. Alors bien sûr, on peut s'inspirer de ce qui a marché quelque part, se poser la question, quelles sont les leçons à en tirer, qu'est-ce que ça nous apprend, mais il y aura toujours un travail d'adaptation à faire pour que on n'est pas dans recopier ce qui a marché ailleurs, mais dans adapter ce qui a marché ailleurs pour que ça marche aussi chez nous. Mais parce que chez nous, c'est nécessairement différent de ce qui a été fait au début. Merci. Alors, je tourne autour du pot, mais voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur ? Allez-y, présentez-vous, me levez-vous, comme ça tout le monde vous voit bien.
Jean-Louis Baron, donc habitant de la Robertsau, depuis quelques années déjà, membre de l'ADIR aussi et distributeur de l'éco, accessoirement. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le tableau là-bas. Vous avez vu les étiquettes, 40, 60 ans, plus de 60 ans, 20, 39, on en a deux, 20 ans, il n'y en a pas. Donc, on a vu d'une certaine façon l'efficacité des associations, en particulier l'ADIR, puisque j'en fais partie, et d'une certaine façon la SER, même sur certains points, on n'est pas, on n'est peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde, mais au moins il y a un débat. Donc, on voit l'importance de l'action et les résultats qui sont obtenus par finalement peu de personnes. Parce que si on prend le nombre d'adhérents de ces associations, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la population de la Robertsau. Donc la première chose, pour être fort, il faudrait déjà être plus nombreux.
C'est l'équivalent des partis politiques actuellement. Hein. Je veux dire que c'est pas mieux. Hein.
C'est pas mieux, ouais, oui, absolument.
Mais, je précise aussi, parce que mais, faut faire le contrepoint.
Quand les associations veulent faire entendre leur voix et faire pression sur les élus, elles sont obligées de faire quoi ? Elles sont un peu obligées de faire la même chose que les syndicats, c'est de manifester, d'aller dans la rue pour voir combien de personnes suivent leur mot d'ordre. Et quand il y a 200 personnes, on commence à se dire, ben tiens, il faudrait peut-être que moi, en tant qu'élu, je me dérange. Donc je parle, je me place à la place du maire ou des adjoints, etc. Donc si on avait plus d'adhérents dans ces associations, on n'aurait peut-être pas besoin de manifester. On aurait déjà un certain poids, justement parce qu'on représente, on peut présenter combien de personnes, 2000, je ne sais pas, je me prends à rêver, hein, mais pour l'instant c'est quelques centaines, sachant que quelques, ça commence à 200, non hein, oui, 300. Donc adhérez, venez participer au débat, aux assemblées générales, et c'est pas cher. Hein.
Votre proposition,
voilà.
Votre proposition, c'est d'adhérer à la DIR.
D'adhérer à des associations qui agissent et participer et venir aussi s'inscrire pour se faire élire au comité, parce que le comité est important, parce que c'est lui qui rédige quand même pour l'essentiel les articles des périodiques, hein, de l'Écho notamment. Et on peut même écrire des articles dedans si on a des idées et participer au débat. Et il y a des pages disponibles, hein, donc je pense qu'il faut se mobiliser. Sachant que les actuels animateurs ne sont pas éternels et qu'il faudra bien qu'il y ait une relève. Et là, pour l'instant, c'est peut-être un peu délicat.
Donc votre proposition, c'est que les citoyens adhèrent plus nombreux à une association. Est-ce que vous, la question, je vous la pose, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont adhérents d'associations hein, dans le tableau, mais est-ce que vous êtes prêts à adhérer, à faire adhérer des gens à des associations ? Oui, non. Là, c'est une majorité de verts. Hein, il y a des des gens qui s'abstiennent. Vous, une réflexion ? Allez-y, monsieur, prenez le micro. Allez-y, levez-vous, venez nous rejoindre ici.
Moi, je me permets encore d'apporter un élément sur la concertation. Actuellement, chaque fois, une réunion publique dans le quartier pour un projet ou autre, la ville, elle fait appel à des intervenants de l'extérieur, en fait, qui ne connaissent pas le sujet. Et ces intervenants, ils donnent la parole à qui ils souhaitent. S'ils trouvent quelqu'un qui demande beaucoup de questions, ils l'écartent, ils ne donnent pas la parole. Et moi, je propose que l'élu doit gérer le courage, gérer ce débat avec des gens compétents et expliquer clairement aux habitants, aux gens concernés, ce qui est le projet. Et il y a un vrai débat, comme l'a signalé M. Blanc dans son discours. Et ça se passait comme ça, la vraie démocratie.
Sur l'exposé. Voilà. Se présente pas en cours d'élection.
C'est ce que je suggère aux élus qu'on le trouve ici, parmi nous, qu'une idée de vous-même gérer le débat et avec les services. Parce que les sociétés d'intervenants d'expérience, ils ne connaissent pas le sujet. Elles essayent d'éliminer celui qui demande trop de questions. Alors, tac, c'est écarté. Voilà, c'est tout. C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup.
Donc votre proposition, c'est que les élus animent directement les réunions publiques avec les services compétents. On peut voter. Non, il faut prendre le petit carton, vert ou... Ah, il y a une majorité de verts, quelques roses, mais une majorité de verts. Alors, une question... Attendez, je crois que c'est monsieur. Allez-y. Non ? Oui, allez-y.
C'était pas une question, c'était plutôt une réflexion sur les enjeux de démocratie locale et particulièrement à Strasbourg. Simplement, je me présente rapidement. J'ai passé 10 ans à l'Eurométropole, à l'époque l'ACUS, à systématiquement travailler sur le champ de la démocratie locale. Et puis je me suis baladé en France où j'ai également travaillé sur ce champ-là. Je pense que d'abord, je regrette dans cette rencontre qu'on n'ait pas d'exposé sur des opérations construite et réussie dans un processus de coproduction réalisé avec la ville de Strasbourg ou n'importe quelle autre institution publique, parce que ça existe. Donc ça, c'est la première remarque, Jacques. La seconde, c'est que je crois que, et c'est ma proposition, je pense que la démocratie locale, elle ne s'arrête pas à des réunions publiques, à des conseils de quartier, et que ce sont des dispositifs qui, effectivement, omettent d'autres modes de communication qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus employé par les plus jeunes, à savoir en particulier tout ce qui a trait au numérique et à l'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie directe, elle se structure beaucoup à cette échelle-là, que ça pose énormément de questions, parce que les informations qui circulent sur ces réseaux sont des informations qui parfois échappent à parfois même tout sens, ou en tous les cas à tout sens acceptable par des citoyens démocratiques. Donc ça, c'est très interpellant. Et je pense qu'il y a véritablement des enjeux très importants de structuration de temps d'échange, de construction de débats et peut-être aussi d'avis à travers les plateformes numériques. Donc ma proposition, c'est qu'à Strasbourg, cet outillage-là se développe. Je sais qu'il y a des projets qui ont existé, qui existent encore autour de ça, mais qu'il faudrait qu'ils se développent, qu'ils se mettent en œuvre et qu'ils soient ensuite, participent en tous les cas, à la prise de décision, sachant que je pense aussi que c'est bien aux élus qui appartiennent les décisions dans le cadre de leur mandat.
Donc je rebondis sur votre proposition, vous souhaitez plus de numérique, donc vous souhaitez que la ville de Strasbourg mette en place des outils de consultation numérique. Par exemple, c'est ça? Êtes-vous d'accord? Non, est-ce qu'on peut faire des votes numériques sur Internet? Oui? Ils sont d'accord. Plutôt contre ici, mais par là c'est d'accord. Ok. Madame. Attendez, parlez, prenez le micro, comme ça tout le monde vous entend. Merci. Présentez-vous.
Bonjour, je suis la présidente de l'association Calme Gutenberg. Donc c'est une association du centre-ville qui a pour but statutaire la promotion de la qualité de vie au centre-ville et qui actuellement est obligée de s'occuper d'un problème unique qui est la dérive de la vie nocturne et les nuisances qui empêchent une bonne partie de la population de dormir, qu'est-ce qu'on va dire, 4 nuits sur 7. Hein. Donc en fait, nous, on n'a pas la même cas de figure de se mobiliser autour de projets qui sont proposés, mais, puisqu'on est une association de victimes. Mais dans tout ce que vous avez dit, j'ai retrouvé des choses qui m'ont parlé tout à fait directement. L'incapacité à proposer un dialogue vrai, qui soit susceptible de créer la confiance, la volonté d'instrumentaliser, l'espèce de marche en crabe avec des accommodements avec la vérité qui vont jusqu'au mensonge, le manque de transparence, absolument, le poids des lobbies, énorme en ce qui nous concerne, et voir, on a parlé tout à l'heure d'intervenants bidons un petit peu à la botte, hein, ça on en voit régulièrement, le sociologue de service qui vient justifier toutes les dérives de la nuit nocturne au nom du Moyen-Âge, de je ne sais quoi... Voilà, du charivari, voilà, il trouve toujours l'idéologue...
Si vous avez trop de bars au centre-ville, on en prend à la Roberto, hein, on est d'accord d'en prendre quelques-uns.
Donc voilà, on trouve toujours un idéologue de service pour justifier l'injustifiable. Donc moi, ma proposition, ça serait que toutes les associations qui vivent cela fassent un manifeste commun, fassent une démarche commune, se rencontrent pour discuter et se rendent visibles ensemble.
D'accord. Donc une proposition, c'est que toutes les associations forment une association d'associations.
Fasse une proclamation commune, un manifeste, pas forcément une association d'associations, mais une démarche commune pour dénoncer les différents points que nous avons en commun, de choses que nous n'acceptons pas.
D'accord. Alors on peut voter.
Qui nous semble contraire à la démocratie.
Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. On peut voter. Il n'y a pas une seule voix contre. Unanimité, bravo, félicitations. Monsieur Walter.
Merci, monsieur. Mais oui, en fait, c'est juste un commentaire, ça sera peut-être même pas... C'est juste que ce que je ressens le plus fort dans toutes ces interventions et des présentations, c'est à quel point les gens ressentent de la méfiance et ressentent le fait que... on se méfie des associations, peut-être. Et que réellement, il y a des difficultés réciproques qui mènent à cette défiance réciproque. Comme par exemple, il est parfois dit, au début, les choses sont tellement bouclées qu'on ne peut plus intervenir. Alors, quelle est la place des associations et quelle est la place de la consultation si déjà tout est bouclé ? C'est tout à fait, je trouve ça absolument légitime et tout à fait exact. Mais en revanche, j'ai déjà aussi constaté que quand un édile ou bien une municipalité arrive avec un projet qui n'est pas ficelé, à ce moment-là, c'est considéré comme tellement flou qu'il y a un loup et que évidemment, il faut encore plus se méfier.
Vous avez un exemple ?
Ah ben,
alors Roberto, par exemple. Oui, puisque vous connaissez bien la Roberto.
J'ai un exemple tout simple, c'est la manière dont le tram devait être construit. Chaque dessin qui a été publié par la municipalité sur la manière dont le tram devrait être représenté a été étudié en disant « Ah, ça prouve que, par exemple, il va y avoir une rue à côté du tram. » par exemple. Et c'était construit sur une méfiance. Je ne suis pas en train de reprocher à quelqu'un de l'avoir interprété comme ça. C'est juste la recherche intense du flou. Et donc, on est dans un vrai paradoxe. C'est si on vient sans que ce soit ficelé en tant que municipalité, on se retrouve avec une levée de boucliers de gens qui disent c'est tellement flou que c'est grave parce qu'ils sont en train de vouloir faire n'importe quoi, ou alors c'est tellement ficelé que, en fin de compte, il n'y a plus la place à la concertation. Et tout ça construit à ce moment-là une vraie méfiance. Et moi, cette méfiance en arrive même à considérer que les élus qui sont ça ne m'est jamais arrivé à partir du moment où j'étais dans un groupe, du moment qu'il y avait un certain nombre de gens, d'être complètement d'accord avec ces gens-là. J'avais au moins toujours l'avis qui était assez différent de quelqu'un, presque de tout le monde. Mais je m'accorde à un moment donné pour quelque chose. C'est-à-dire que je cède quelque chose si je dois m'accorder avec un groupe. Et c'est là que se construit la démocratie au moment où on doit se plier au fait que plein de gens ont désigné quelqu'un. Et donc,
en conclusion,
c'est à un moment donné, il faut avoir un peu d'indulgence. Si on ne commence pas à donner un peu d'indulgence aux interactions et aux réactions, à ce moment-là, on risque plus d'avoir moins de méfiance. Et je vais juste finir pour ça. C'est pour ça que je comprends bien le monsieur qui a signalé que c'est dommage de ne pas avoir parlé d'un projet fini. Parce que les projets finis, on peut réellement dire... Comment s'est passé l'arbitrage ? Est-ce que cet arbitrage, il y a vraiment tellement de gens qui trouvent que c'est très mauvais ? En revanche, quand c'est avant que ce soit fini, c'est le règne de la méfiance, puisque ce n'est pas terminé. De l'indulgence.
Jean-Daniel, en réponse, avait souhaité partenir. Ensuite, j'ai vu que monsieur souhaitait parler. Voilà, les deux, vous êtes notés.
Votre intervention montre, excusez-moi, mais une méconnaissance, à mon avis, comme de la construction d'un projet. Parce que projet, quel qu'il soit, commence par établir un programme. Certains l'appellent cahier des charges, dans les termes techniques d'ingénierie publique comme privée, on appelle un programme. Un programme, c'est... Pas de représentation graphique. C'est définir ce qu'on veut faire. On veut faire un tramway qui va de là à là, ou un transport public. On peut dire au départ, si on a un transport public, on veut faire un transport public qui va de là à là. On veut y adjoindre une piste cyclable, peut-être. On veut faire une rue, j'en sais rien. C'est ça la définition d'un programme. Et c'est dès le début, dès la définition du programme, qu'il faut une construction commune. Chacun va dire, bah oui, au lieu du tram, on peut mettre des bicyclettes. Au lieu de la route, on peut mettre un téléphérique. Enfin, on peut tout peut se discuter. Et on ne peut pas accuser une partie ou l'autre d'avoir une arrière-pensée, puisqu'il n'y a rien. Il y a une feuille blanche et on essaye tous ensemble de monter le programme de ce qu'on va faire.
Merci. Pendant qu'on va donner le micro à monsieur, juste avant, je voulais juste que vous réagissiez sur le sociologue de service. Est-ce que c'est ce soir le sociologue de service ?
Oui, il peut y avoir des sociologues de service. Ce n'est pas aucune profession n'est à l'abri d'avoir... Des gens de différents bords et des opportunistes. Ça, je ne défendrai pas la profession de sociologue comme étant parfaite. Je voudrais en profiter, puisque j'ai le micro, pour dire que je comprends très bien ce que vous avez dit et que, à la fois, on est bien dans ce paradoxe que si c'est trop vague, on soupçonne qu'il y a des intentions cachées et que si c'est trop bouclé, ben c'est inacceptable aussi. Et que ça, c'est très difficile à gérer. Et c'est une difficulté extrêmement concrète qui n'enlève rien à ce que disait tout à l'heure.
Est-ce que cette difficulté s'enlève justement par la preuve? Il y avait une candidate qui disait, ben voilà, il faut faire la preuve qu'on est honnête de nos sentiments, de nos intentions. Est-ce que finalement, chat est chaudé de cravale au chat chaude? Et effectivement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de preuves quand même. Tout à fait.
C'est que la preuve, il faut la donner dans les actes et que c'est bien souvent ce qui manque. Alors, je voudrais faire une remarque plus générale qui m'a beaucoup frappé dans les interventions qu'il y a eu. Je dirais qu'il y a, il me semble, un couple d'attraction-répulsion entre la municipalité et les militants associatifs, où à la fois on se méfie d'eux et on peut dire mais il faut qu'on puisse se réunir sans eux, et puis on dit et ça fait l'unanimité, mais s'il y a, il faudrait que la ville mette au service de tout le monde la plateforme numérique qui permettra la concertation. Et donc et je crois qu'il y a là une caractéristique qui est bien imprégnée du jacobisme centralisateur français, c'est d'attendre tout de l'État. Ce que l'on trouve beaucoup moins si on passe, traverse le Rhin, qui est un État fédéré depuis le Moyen-Âge et où il y a beaucoup plus d'autonomie locale et beaucoup plus d'autonomie des citoyens.
Alors on va passer aux questions. Merci d'avoir patienté. Allez-y, monsieur, alors, je vous écoute. Présentez-vous.
Antoine Kraus de Laran, Neudorf.
D'accord. Donc je suis on a toutes les associations ici aujourd'hui, ce soir. Ouais.
Mais je ne parle pas au nom de l'association, mais je dis que je suis membre de Laran.
D'accord, pas de souci.
Parce qu'avant de parler au nom de l'association, il faut d'abord être d'accord. Vous voyez, je veux dire ça. Il faut d'abord que l'association soit d'accord avec mes propos.
C'est bien de le préciser.
Et mes propos,
allez-y,
mes
propos, allez à l'essentiel.
Et mes propos sont beaucoup plus acides. Laran, Association des résidents et amis de Neudorf. Très connu à l'époque, mais depuis la socialisation de la ville, nous sommes coincés. D'accord, la première chose, Madame Beaujean, vous avez parlé du Kaisergut, le lieu d'Europe. Je suis membre aussi de Maison de l'Europe à l'époque avec M. Massian. Nous n'étions pas du tout demandeurs de cet immeuble. Nous avions plutôt voulu un endroit accessible aux gens, par exemple là où il y a les autocars, vous voyez, mais non. Monsieur Riss nous a imposé le Kaisergut. Pas nous, parce que nous sommes que des locataires, mais c'est l'ensemble. C'est juste pour dire que la surface du lieu d'Europe, c'est le vestibule du lieu d'Europe, entre guillemets, à Bruxelles. Et l'Europe n'y met pas un centime. Alors vous voyez, lieu d'Europe à Strasbourg, où l'Europe ne met même pas un centime, ni le Conseil de l'Europe, ni le Parlement. Excusez-moi, mais je sais que vous êtes... D'accord. La deuxième chose, M. Gratteco, le conseil de quartier, vous devrez presque une heure expliquer le fonctionnement d'un conseil de quartier. Parce que je vous explique juste une chose. Vous êtes membre du conseil de quartier. Voilà. Donc, conseil de quartier, théoriquement, tous les ans, il faudrait qu'il y ait une réunion publique, plénière, publique, où tout le public de la Roberto est invité. Est-ce que vous l'aviez fait cette année? Juste pour exemple, à Neudorf, le conseil de quartier a fait une réunion publique lors de la journée des associations. Coincé entre deux portes, il y avait trois personnes du conseil de quartier qui ont attendu le conseil les habitants venir. Alors ça, ce n'est pas une réunion publique, alors que les réunions publiques, normalement... Il n'y a pas de règlement du conseil de quartier à Strasbourg. Hein. Il n'y a pas de règlement, hein, j'ai demandé. Et normalement, une concertation, ça veut dire... Élus, habitants qui ne font pas partie du conseil de quartier et des fonctionnaires, des techniciens. Alors, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas.
Votre éventuellement dernière réflexion oui. Et votre proposition.
Oui, mais juste si vous permettez. Hein.
Bien sûr, mais le temps est limité quand même.
Oui, je sais. Mais encore une chose, M. Brown, vous rappelez très bien que je suis intervenu lors de la soirée du géothermie où je me suis permis, et là viendra ma question, je me suis permis de traiter certaines personnes d'imbéciles pour la présentation qu'ils ont fait au public. Des techniciens et des politiques qui nous ont pris pour des imbéciles. Vous allez me dire, ça veut dire vraiment pour les enfants. Ça, c'est vraiment, c'était fort de café. Vous avez essayé à la fin de poser les problèmes, les questions, mais personne ne vous a répondu. Et encore une chose, quelqu'un citait monsieur le premier adjoint. président de la CTS, énarque, ne vous étonnez pas s'il sort du chapeau ce qu'il veut. C'est un énarque, il est fait pour ça. Et je vous assure que ce monsieur, il est très, très, très sympathique. Mais si vous saviez ce qu'il a sous la tête pour ce qui concerne Strasbourg, méfiez-vous.
Alors, votre remarque...
Ma proposition, oui. Elle est toute simple, c'est, et ça, ça revient partout, on parle toujours de ce qui est passé il y a 10 ans. Mais j'aimerais bien que les associations et que les habitants gardent en mémoire les actions. Parce que la municipalité, elle fait tout son possible pour oublier ce qu'on nous a dit il y a 5 ans. Gardez la mémoire des actions. Et les associations ne le font pas toujours, M. Gratteco. Parce que quand il y a un problème, un dossier, eh ben, vous ne parlez pas toujours de ce qui s'est passé avant. Vous voyez, je veux dire, ça veut dire les faits. Ça veut dire que quand il y a un dossier qui sort, vous devriez être capable, M. Gratteco, en tant que président, je dis, vous, je vous dis, maintenant, parce que c'est vous le président.
En conclusion.
Oui, oui, attendez, c'est vous non. Le président, vous voyez, mais je le dis à tous.
Non, les... je n'attends plus.
Oui, mais tous
la
les
La conclusion tout de suite.
Oui, non, mais j'insiste encore une fois, gardez la mémoire des actions.
Et j'insiste aussi pour la conclusion, merci.
Merci.
Alors, votre proposition, si je comprends bien, c'est d'avoir un département aux archives municipales de toutes les actions des associations. On peut, si je veux. Merci. Qui est pour ? Qui est contre ? Tout le monde s'abstient. D'accord, c'est à réfléchir, à mûrir, monsieur. Monsieur, allez-y.
Oui, Germain Zimmerlé, moi je suis Robert Sauvien depuis bientôt 25 ans. Moi, je voulais revenir sur la présentation initiale du professeur tout à l'heure, parce que je pense que le jeu qu'il a décrit, c'est-à-dire un jeu à 3 acteurs, à mon avis, il n'est plus aujourd'hui à 3 acteurs. Surtout dans les hautes sphères du millefeuille, hein, dans les sphères gouvernementales ministérielles, mais ça transpire hein, jusque dans les démocraties locales. Ce que je veux dire, c'est que le jeu aujourd'hui, ce n'est plus le politique qui le dirige. Et ça a été dit lors de plusieurs interventions, on l'a senti, ça a été dit à un moment donné. Qui c'est qui dirige aujourd'hui ? Et on l'a encore vu dans une émission, je ne sais pas si vous l'avez regardé avant-hier, ce que vous appelez les techniciens, aujourd'hui dans les cabinets, ça s'appelle les conseillers. Il y en a 500 au ministère, hein, dans différents ministères. 500 conseillers en France. Hein. Et donc ça se répercute aussi, parce que ces élus qui sont locaux sont aussi, si vous voulez, des élus nationaux. Ils savent comment on fait, comment il faut faire. Hein. Donc le jeu, c'est quoi ? Le jeu, c'est effectivement l'élu. C'est très peu, et en dernier lieu, le citoyen. Il y a effectivement les conseillers, et au-delà des conseillers, et il y a ceux qui dirigent de plus en plus, ça a été dit tout à l'heure, ce sont les lobbies, et avec les lobbies, ce sont les médias. Et on est aujourd'hui, quelque part, et ça a été dit l'autre jour par Jean-Louis Debré, si quelqu'un l'a suivi à Strasbourg lorsqu'il allait à la conférence Gutenberg, il est dit, les politiques sont sous la dictature des médias. Et pourquoi ? Parce que les lobbies avec les médias, c'est souvent les mêmes personnes qu'on fait Bolloré. Et donc, vous voyez, qui c'est qui dirige aujourd'hui le pays ? On a beau faire ce qu'on veut, et on comment on peut faire, et c'est peut-être votre question, comment on peut réagir ? Il faut s'informer, il faut regarder plein de choses, il faut regarder des choses qui ne sont pas, je dirais, ce qu'on nous sert globalement tout, aux informations normales et dans les journaux normaux, il faut aller au-delà pour savoir réellement ce qui se passe.
Merci. Merci de votre... Une proposition ? S'informer ? Ça veut dire ?
S'informer, regarder...
Que le DNA soit gratuit, par exemple ?
Oui, ben, c'est pas le journal de référence pour beaucoup de choses. Hein. Mais il faut aller au-delà, il faut aller chercher l'information ailleurs. Il faut regarder des émissions intéressantes qui sont, vous le savez, toutes tard le soir. Bien sûr, ce n'est pas à prime time hein, qu'on a la vérité sur ce qui se passe dans le pays. C'est plutôt beaucoup plus tard. Il y a des émissions intéressantes. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'aujourd'hui, le jeu, ce n'est pas un jeu simplement de l'élu, du citoyen, voire des conseillers.
Merci. D'accord, c'est une réflexion. Il n'y a pas de proposition. Pas de... Oui, très bien. Pierre Ozen voulait réagir après le professeur Blanc.
Oui, on m'oblige à me lever, donc je me lève. Non, je voulais juste, vous me faites réagir, enfin, votre propos me donnait envie de réagir, sur 2 aspects. La question de la mémoire. Il s'avère que tout ce qui s'est passé au Neudorf par rapport au débat sur le tram, doit-il passer par la place du marché, ou doit-il le contourner, etc. Bah, figurez-vous que oui, le travail de mémoire a fonctionné, en tout cas pour l'ouest de Strasbourg, y compris Koenigshofen, puisque justement, nous, on veut qu'il passe dans le quartier pour qu'il dessert bien le quartier et non pas qu'il le contourne. Mais la difficulté de cette affaire, c'est que, en l'espèce, c'est bien les associations de tous les quartiers ouest qui ont en mémoire ce qui s'est passé au Neudorf, mais cette fois-ci, c'est la municipalité qui n'a pas en mémoire ce qui s'est passé et les conséquences au Neudorf, puisque le débat actuel qui consiste à savoir depuis quel point on fait partir le tram vers Königshofen, est-ce qu'on le fait partir de la gare ou par le Faubourg National, en réalité, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Neudorf dans les années 2008, enfin dans 2007-2008, dans ces eaux-là, non 2001 pardon, dans ces eaux-là, pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé au Neudorf, aujourd'hui la réponse serait évidente, on devrait prolonger le tram depuis la gare et non pas essayer de saccager des espaces de vie et faire fonctionner ça. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, très rapide, c'est sur la question de la sincérité des débats. Mais la sincérité des débats, à la fois, qui est-ce qui le tient, à savoir l'élu et les techniciens. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, je n'accable jamais un technicien ou un ingénieur qui vient présenter un projet de la municipalité. Et il a une ligne de conduite qui lui est dictée. Il doit répondre à une commande d'un élu. C'est l'élu qui tient le propos. C'est pour ça que, précédemment, je n'étais pas forcément favorable à l'idée qu'il n'y ait pas d'élu lorsqu'il y a un débat. C'est lui qui doit soutenir son projet, mais soutenir dans le sens argumenté. En face, il doit y avoir des contre-arguments, mais il faut que ça soit sincère. Et il ne faut pas qu'à l'issue d'une réunion, les choses soient décidées. Il faut que ça mûrisse. Et donc, du coup, il faut une certaine itération, donc un certain nombre de réunions successives pour pouvoir accompagner le projet et les modifications. Et puis, tout simplement, avoir l'honnêteté intellectuelle de dire « Je suis parti de là, du point A dans un projet, j'arrive à un point B qui aboutit à un consensus et qui fait que le projet réussit. »
Merci, professeur Blanc.
Oui, merci. D'abord, je m'associe à ce qui vient d'être dit sur l'importance de la mémoire. Je veux revenir à l'intervention précédente. Et vous avez raison, en disant un jeu à trois, j'ai simplifié outrageusement. Et vous avez entièrement raison. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la question des inégalités. Et que le riche sera toujours plus écouté que le pauvre. Mais le riche, c'est aussi bien le riche qui a du fric que celui qui a le moyen de parler, ce que Bourdieu et d'autres appellent le capital social, et qui a le carnet d'adresses, le réseau de relations, etc. Et c'est tout ça ce qui se joue aussi dans et qui est un obstacle majeur à une vraie démocratie participative.
Merci. Alors, le micro est pour monsieur d'abord, puisqu'elle a demandé madame. Monsieur et après madame, vous êtes dans la liste.
Alors, bonsoir, je suis France Dominique, j'habite donc la Robertsau. Et justement, par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure le monsieur et par rapport aux gens très riches dont vous parlez, je pense qu'il y aurait un moyen de lutter justement contre les baratins, entre guillemets, que nous présentent les lobbies, c'est-à-dire que quand ils veulent défendre leur beefsteak, par exemple, ils ont des développements qu'on ne peut pas suivre puisque techniquement, on n'a pas la compétence. Donc ce que je voudrais dire ce soir, c'est que dans chaque association, il y a toujours quelqu'un qui veut bien mettre ses compétences au service de l'association. Et je voudrais beaucoup remercier tous ces gens, souvent des retraités, qui passent beaucoup de temps à étudier des dossiers. J'en profite pour remercier Jean-Daniel Braun, qui s'est farci beaucoup de lectures très techniques et très chiantes, entre guillemets. Et merci, parce que franchement, nous-mêmes, on les verrait, on ne les comprendrait pas. Donc je voudrais encourager les gens qui veulent bien donner leurs compétences, pas forcément à la retraite, mais qui veulent bien passer du temps pour lire des dossiers techniques que nous ne pourrons jamais comprendre. Et c'est une façon de lutter contre les lobbies et contre les préparations, les textes qui nous proposent auxquels on ne comprend rien.
Donc vous suggérez une place Jean-Daniel Braun à la Robertsau?
Ah oui, 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 absolument, ça fait longtemps de toute façon.
Bon, alors qui est pour une place de Jean-Daniel Braun à la Robertsau?
Et tous les Jean-Daniel Braun qui existent dans toutes les associations.
Merci, c'était une blague évidemment. Voilà. Madame, allez-y.
Oui, alors moi je suis Robertsauvienne, Anne-Sophie Picard. J'essaye de mettre mes idées en place. Je pense qu'on manque d'une proposition globale pour la Robertsau. Qu'est-ce que c'est que la Robertsau? C'était encore un espace de respiration. Et actuellement, on bétonne on fait des bêtises qu'on a commises dans les années 70. Et pour moi, c'est un argumentaire, une argumentation à défendre, c'est de dire la Robertsau, c'est un poumon pour Strasbourg, et ça doit le rester. Nos jardins sont des poumons. Les espaces verts qui dominent encore à l'heure du réchauffement climatique font baisser la température. Et ça, c'est un argument fort qu'on doit avancer. Ça doit être notre projet de Robertsauvien. Et à partir de ça, ce projet global, on peut construire toutes nos défenses. C'est-à-dire que la ville, en ce moment, parle de réservoir urbain, la ville parle d'éco-quartier, etc. Et nous, notre défense, c'est de dire, attention, on est dans la zone la plus polluée de Strasbourg, on est vers l'Est, et nous, on peut avoir cette fonction de poumon, et on doit la défendre, on peut être une espèce, j'exagère un peu, mais enfin, de Central Park de Strasbourg, d'Amazonie Strasbourg, en quelque sorte, et ces jardins. Moi, j'avais déjà envie de faire une espèce de petite campagne de label, ici, un poumon vert, voilà, avec des étiquettes, des panneaux, un morceau de poumon de Strasbourg.
Donc votre proposition, c'est de dire il faut absolument défendre les espaces verts actuellement en milieu urbain.
Ma proposition, c'est de fédérer les Robertsauviens autour d'un projet commun qui serait Robertsau égale poumon pour Strasbourg, et on défend la Robertsau comme ça, voilà.
D'accord, qui est pour ? Projet global, espace sur... Oui. Qui est contre ? Une voix contre. C'est pas mal, hein ? Il y a un foyer d'unanimité ici. En tout cas, je voulais juste une question complémentaire, parce que ce sont deux sujets qui peuvent être compris dans deux dossiers actuellement qui sont développés, qui s'appellent le parc naturel urbain et le plan local d'urbanisme qui a été voté. Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés, que vous avez compris ou participé, madame ? On peut juste donner le micro, madame, pour une réponse complémentaire ?
Alors, malheureusement, je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, comme beaucoup, hein, mais j'ai suivi d'un œil, et je trouve que ça ne va pas assez loin. Voilà, je trouve qu'actuellement, enfin, ça fait longtemps qu'on pourrait avoir des percées vertes. Alors, on a des ceintures de Lille, mais on pourrait encore presque avoir des percées qui nous permettent de relier la Robertsau à l'Orangerie. Actuellement, pour se rendre... Enfin, on est une île, et pour quitter cette île, on est dans les pots d'échappement, et je trouve que les propositions ne vont pas assez loin. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Encore une dernière intervention ici, puis après, on va aller tout doucement. Je vous parle pas de soucis, monsieur, mais très court... Et on va arriver aux conclusions de cette soirée pour que vous puissiez encore discuter, profiter de nos invités.
Oui, merci. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Marc Offsès, actuellement Robertsauvien et actuellement membre du collectif Un cœur pour la Robertsau, qui défend le foyer Saint-Louis. Une remarque et puis une proposition. La remarque, c'est que la démocratie participative, la co-construction des projets, ça demande des moyens. Ça demande des moyens à la fois à la municipalité pour l'organiser, et c'est vrai qu'il y a des exemples intéressants qui ont eu lieu à Strasbourg. On vient de parler par exemple du parc naturel urbain sur la partie Königshofen Montagne Verte. On peut aussi citer l'atelier de projet qui a eu lieu sur Danube, voilà, sur un certain nombre de quartiers. Ça demande des moyens d'abord en temps. C'est des projets extrêmement longs. C'est-à-dire que Danube, c'est vrai que pratiquement, on a passé 4 ans en atelier de projet avec les citoyens, participants, etc., des réunions le soir, des réunions le week-end, etc., mais avec une feuille blanche au départ, simplement avec dire, voilà, on aimerait bien faire un éco-quartier. Donc. Et effectivement, là, ça a été intéressant, un processus itératif, ouvert, une feuille blanche, mais avec un investissement très fort de la part des participants, des citoyens, mais aussi de la municipalité, des techniciens, etc. Quoi. Nous, un atelier projet, on en a demandé un sur le cœur de la Robertsau. Et ça nous a été refusé. On pensait, enfin, pour l'instant, on n'a pas, pas de position très claire sur ce qu'on en aura pas. On pense que ça
le mérite. Le maire l'a proposé.
Le maire l'a proposé, certes, mais pour l'instant, on ne voit rien se concrétiser. Le permis de démolir le foyer vient d'être déposé. Donc, mais Alors, est-ce que derrière, peut-être, y a-t-il dans la restriction des moyens budgétaires, etc., le fait que la municipalité est crispée pour engager, parce que ça doit coûter, ça coûte. Et donc, moi, ma proposition, c'est que on puisse, dans la proposition concerne Paris, c'est une idée de Paris. Donc, juste souligner ça.
C'est-à-dire on va conclure, on va vraiment conclure.
La proposition, c'est Paris vient de décider. C'est le budget participatif. Paris vient de décider, le conseil de Paris vient de décider d'octroyer 100 millions aux projets concoctés par les habitants. Ça veut dire que la proposition, c'est que on donne de façon tout à fait ouverte. On met un budget, une part du budget municipal à disposition des habitants, avec un processus évidemment de sélection, d'élaboration des projets, de sélection, avec un vote des citoyens de tout le monde qui peut voter les projets qui doivent accéder à ce budget, etc. Et après, une mise en œuvre par les citoyens.
Donc une proposition de budget pour budget que les citoyens puissent monter des contre-propositions plus intéressantes. Qui est pour ? Alors, il est presque 22h, allez-y, levez les bras. Qui est contre ? Majoritairement pour. On va finir par monsieur. Très, je suis désolé, on arrive en fin de soirée. On a encore deux, trois petites choses à dire. Merci. Ils courent vite, hein, ils sont jeunes.
Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avoir organisé cette soirée. C'est toujours très illustratif, surtout quand ça ne fonctionne pas. Les intervenants qui disent qu'il faudrait des exemples, comment ça fonctionne bien, oui, je suis d'accord aussi, parce que ça permet de regarder un peu comment ça pourrait se passer et pourrait se passer mieux. J'ai deux questions, mais avant d'y arriver, juste une petite remarque concernant les jeunes et le numérique. C'est aussi une autre culture. Il ne suffit pas tout simplement de faire en numérique ce qu'on a toujours fait en analogue. Ça ne fonctionnera jamais. C'est une petite... Au niveau des questions et de donner des exemples où ça a bien marché, une première question serait, est-ce que la méfiance dans les projets, est-ce que la cause en est le fait que des devis et des données existent, mais elles ne sont pas publiques, ou les gens refusent de les mettre à disposition? Cela permettrait de bien comprendre un dossier qui est déjà bouclé, et bien argumenté, et bien motivé. La deuxième question serait, est-ce que vous êtes d'opinion que des lignes directrices, une charte, etc., qui permettraient une meilleure coopération en partenariat par des consultations, et en premier lieu par avoir une meilleure information au bon moment, est-ce que ça permettrait de mieux travailler ensemble en tant que citoyen, en tant qu'association, avec les autorités publiques?
Merci pour ces propositions. Si je résume bien, la première, c'est l'accès facilité aux informations. Et la deuxième, rappelez-moi...
Une charte.
Merci beaucoup. Qui est d'accord pour faciliter l'accès aux informations à la ville? Enfin, aux informations. Merci. Sachant que qui est contre? Qui est contre? Personne n'est contre. Unanimité. Félicitations. Sachant que ça existe déjà, hein, ça s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, hein, qu'on utilise très souvent, malheureusement. La deuxième proposition, qui est pour une charte? Une charte. Non. À réfléchir. On va conclure. Notre huissier qui a écouté Paul... Laurent Paul, qui va venir ici, va nous faire un rapide récapitulatif de toutes les propositions qui ont été faites, et en tout cas celles qui ont obtenu le label, hein, de la soirée, juste pour que vous soyez au courant. Laurent, merci.
Alors, vous m'excuserez si je n'ai pas eu le temps de tout noter. J'espère avoir fait le maximum. Alors, les premières propositions ont démarré autour de la table ici.
Est-ce qu'il y a une proposition qui a été refusée?
Un vote plutôt non sur les rendre les élus absents aux concertations.
D'accord. Alors, unanimité, qu'est-ce qu'on a eu?
Qu'est-ce qu'on a eu en unanimité? Unanimité, ben la dernière, là, sur l'accès facilité aux informations, c'est clair. Vert unanime sur faire un manifeste commun à différentes associations pour les points qu'on n'accepte pas. C'était madame. Il y a pas eu de vote sur garder la mémoire des actions au sein des associations et la partie sur les lobbies, le citoyen doit s'informer pour prendre du recul. Sinon, il y a eu des majorités de verts sur un budget aux habitants, donc l'avant-dernière. L'exemple parisien, là, de monsieur. Un peu plus de verts que de rouges sur structurer la démocratie locale.
On parle de bulletin vert.
Oui.
Bien sûr.
Papier vert. Structurer la démocratie locale par le recours aux outils numériques, pour y associer les plus jeunes. Majorité de verts aussi sur les élus animent eux-mêmes les réunions publiques, pas un animateur payé, c'est avec mes mots. Hein. Unanimité de verts, ah oui, j'avais oublié, plus d'adhésion aux associations qui auront ainsi plus de poids par rapport aux élus. Et un vert très majoritaire, c'était au début la citation que j'ai résumée en disant « faire taire ceux qui posent les problèmes ».
Merci beaucoup pour ce rappel. Tout sera le poumon vert, oui, on l'a noté. Mais toutes ces propositions seront sur le site en même temps en ligne que le podcast de la soirée. Merci beaucoup, Monsieur Huissier. On va donner la parole à Maurice Blanc pour une dernière conclusion. Est-ce que vous avez vu la photographie de la salle, hein, qui, donc là, clairement, on est sur des personnes, excusez-moi du terme, au-delà de 40 ans, avec plutôt masculine, hyper associalisée, je ne sais pas si ça se dit, qui habite Robertsau, mais aussi beaucoup de Strasbourg. Est-ce que les personnes qui ont pris la parole sont représentatives de ce panel de ce soir ?
C'est difficile à dire comme ça, mais je pense que probablement. Alors, je voudrais faire remarquer que ce qui apparaît là, c'est quelque chose de très classique et en sociologie des associations et en sociologie des élus locaux. Surparticipation des personnes âgées, des hommes, mais aussi ce qui n'apparaît pas dans ce tableau, de ceux qui ont une formation à bac +++, et j'en fais partie. Tout ça, c'est des choses qui sont très classiques dans la politique et dans la vie associative. Donc là-dessus, il n'y a pas de véritable surprise. Et la question, c'est comment faire pour élargir au-delà de ces milieux-là.
Une petite conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné ce soir ?
Étonné. Ben, je l'ai déjà dit, j'ai quand même été étonné par la façon dont, à la fois, et avec presque la même unanimité, on veut qu'il y ait des moments où les élus ne sont pas là parce qu'ils vont nous manipuler et on veut travailler sans les élus, et des moments, ah, mais il faut absolument que les élus soient là. Et puis, ce que j'ai envie de dire, et c'est que je trouve extrêmement intéressant ce qui a été dit sur la nécessité d'experts, je veux ajouter d'experts traducteurs. C'est très mal vu chez les experts et chez les universitaires de faire de la vulgarisation. C'est pour les journalistes. Mais je pense que c'est le boulot des experts et des scientifiques. Mais alors, c'est vrai que les experts, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. S'ils rendent accessible leur savoir scientifique, c'est comme le paradoxe de l'enseignant. S'il rend et en particulier dans la formation des adultes, les gens capables d'apprendre par eux-mêmes, il n'y a plus besoin, ont-ils peur, mais ça, à mon avis, ça se discute, qu'il n'y ait plus de place pour eux. Et donc, un expert qui comprend les enjeux scientifiques, mais qui sait les traduire, et c'est tout l'art, c'est qu'il faut simplifier sans être simpliste. mais traduire pour que ce soit accessible au grand public et qu'on puisse en discuter politiquement.
Merci de cette conclusion. Jean-Daniel Braun, très rapidement.
Oui, très rapidement. Moi, je me félicite de la présence ici de représentants de différentes associations en dehors de la Robertso. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a quelques années, nous avions créé le collectif des associations, que nous avons travaillé un petit moment ensemble et que, pour des raisons diverses et variées, nous ne sommes plus arrivés à réunir ces différentes associations. Donc, je voulais dire que nous sommes prêts à de nouveau réunir le maximum d'associations pour qu'elles puissent travailler ensemble.
Dont acte, Monsieur le Président.
Oui, enfin, je vais employer le terme habituel, soirée très riche, évidemment. Mais en dehors des lieux communs, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, le maître mot ce soir, ça a été le mot méfiance. Et ça, vraiment, c'est assez grave. Alors, je pense qu'il faut lever cette méfiance, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'ai été fort heureux d'entendre qu'il ne fallait pas se passer des élus. Je suis totalement d'accord sur ce point. Ça, c'est un point très, très important. Il faut également, à ce moment-là, que les élus ne nous disent pas, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux, si vous n'êtes pas content, présentez-vous aux élections. Je pense que ce n'est pas la meilleure réponse à nous faire.
On entend beaucoup ça à la Robertso.
Oui, on entend beaucoup ça à la Robertso, malheureusement. Et ça, je le regrette. Et également, un autre point, c'est que nous ne sommes pas, nous, les associations, nous, les particuliers, le problème. On a le sentiment que nous sommes le problème, alors que peut-être, et là je reprends, vous savez ce qu'on entend beaucoup en Espagne actuellement, nous sommes peut-être la solution. Alors, on refuse de nous considérer comme étant la solution, mais parfois, je pense que nous n'avons pas que des mauvaises idées. Et enfin, je finirai, ça c'est encore un lieu commun peut-être, mais les élus, les associations avec les personnes qui travaillent, mais également les particuliers, nous sommes tous des concitoyens. Ça signifie que nous devons travailler ensemble. Et parce que les élus, un jour, ne seront plus que de simples citoyens, et puis peut-être que parfois, certains jeunes citoyens seront un jour des élus. Et ça, j'aimerais bien que les élus, les concitoyens et les associations le comprennent. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à nos grands témoins. Merci Marie-Laure. Merci Pierre. Merci Monsieur Jocry. Merci professeur. Merci à Jean-Daniel. Merci président. Vous retrouverez dans l'écho de la Robertso que vous avez sur vos chaises un bulletin d'adhésion. N'oubliez pas de le remplir et d'envoyer votre chèque. Vous avez également nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter et sur notre site internet, vous retrouverez un résumé et un podcast de la soirée. Un grand merci pour cette participation et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.